comme on dit souvent, Dieu a créé l'or, mais le diable l'a caché.
Aujourd'hui, on vous emmène dans un univers fascinant, celui de l'or. Celui qu'on extrait, qu'on transforme, qu'on stocke et dans lequel on investit, mais pas que. Notre invité travaille au cœur de cette industrie unique où géopolitique, économie et passion se croisent. On va parler matières premières, finances, mines. Et ça, c'est intéressant. On n'a jamais quelqu'un qui mine. Pour une fois, pas du Bitcoin, mais de l'or. Bienvenue dans Unlocked avec Ayoub.
Merci de l'invitation.
L'or, c'est quoi ? C'est celui qu'on extrait, qu'on transforme, qu'on stocke et dans lequel on investit, mais c'est pas que ça. Hein ?
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de presque métaphysique dans l'or qui n'est pas dans les autres éléments. Et je pense que c'est pour ça que, pas seulement l'engouement à cause de la croissance de prix, mais aussi de cette nature qu'on n'arrive pas à saisir.
Mmh. Et on va parler matière première, donc l'or physique, finance, mine, parce que c'est là-dedans que tu es, tu travailles dans les... Alors, tu travailles dans les mines, c'est pas exactement ça, tu travailles avec des mines, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Je durais pas très longtemps dans la mine elle-même, mais on a des mines et c'est toute une équipe qui s'en occupe, c'est ça. Ouais.
Donc c'est une question de terrain, t'es vraiment sur le terrain, toi, où tu es un peu partout, tu es sur le terrain, sur le métaphysique.
Oui, je suis comme l'éther elle-même. En fin de compte, pour juste expliquer un peu mon rôle un peu dans cette industrie, juste pour me présenter aussi. Donc, en fin de compte, je suis arrivé par le biais du investment banking, d'accord, la banque d'investissement, où c'était plutôt, l'objectif était croître le capital, les AUM, etc., etc. Donc, il y avait un modèle auparavant qui est différent du modèle aujourd'hui. Et ce modèle avant, c'était d'identifier des réserves. Par exemple, des réserves qui étaient sous le radar d'une grande multinationale qui était dans l'or, par exemple les Barrick et les Kinross du monde. Donc, on prenait cela et on la mettait dans une coquille publique. Et ça faisait en sorte une valorisation. Et après, la réserve, on l'augmentait de 300 000 onces, 400 000 onces à 1 million de onces. Et là, les grandes sociétés commençaient à être intéressées. Et donc, on faisait un package et on vendait tout. D'accord? C'est clair que c'était une époque intéressante, mais un peu frustrante. Parce que dans la finance, on est beaucoup dans la virtual reality. Ça existe pas, etc., etc. Donc, quelque chose de tangible. Quelque chose de concret, de cohérent, qu'on peut toucher, qui aide l'industrie, qui aide notre vie, c'était quelque chose d'une étape importante que je voulais franchir. Donc, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré quand même dans des scénarios de production même. D'accord? Et c'est clair qu'il y a eu un cycle minier sur 15 ans, où il y a eu un peu tout et n'importe quoi qui s'est fait au début. Ça crée quand même, une époque où c'était la réception au secteur minier était lukewarm, était assez froid. Et là, ce qui se passe, on revient à des fondamentaux réels où la production est absolument impératif. Et je te l'avais dit d'ailleurs, Igor, c'est que dans le mining, c'est pas la mine qui est difficile à avoir, c'est pas le capital, c'est l'élément humain. Les professionnels qui s'occupent de la production, de l'opérationnel. McKinsey Report a dit qu'en fin de compte, la vraie pénurie dans le mining, c'est pas le capital ni les mines, mais c'est les personnes. Et on a maintenant une équipe très homogène, qui des géophysiciens, des spécialistes aussi. Et en fin de compte, le mining, la finance, c'est un secteur très overlooked. Il y a des gens qui comprennent la mine. Il y a des gens qui comprennent la finance, ceux qui comprennent les deux, il y a très peu. Donc voilà, ça c'est un peu notre USP.
Et l'or, ça fait rêver, c'est un produit qui fait rêver. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te faisait rêver avant que tu te lances dans
mais
ce secteur ?
Mais ça me fait toujours rêver, mais il faut avoir ses rêves à sa place. Parce que l'univers lui-même est complexe. Il est fait de beaucoup d'éléments différents, mais l'or est un élément assez important dans ma vie et ma carrière en tant que professionnel du mining. Et c'est clair que ce rêve de l'or depuis l'Antiquité, quand la première pièce dans une cour, dans un palais à Saint-Pétersbourg avec des pièces d'or faisaient rêver la royauté et la population, continue jour d'aujourd'hui, spécialement en étant conscient de l'origine quasi mystique de l'or, parce que l'or vient d'où? C'est une étoile qui a explosé. Et c'est la poussière d'étoiles qui est descendue sur la Terre. Je te parle avant le Big Bang et tout ça. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet or va au centre de la Terre. Et s'il n'y avait pas une gestation des mouvements de la Terre elle-même, l'or ne serait jamais remonté à la surface. Il y a des fissures dans le rocher et l'or monte dans ces fissures. Et après, il y a un rocher très fort, très dur, où tu as des veines, c'est des kilomètres de longueur. Et après, il y a quand même une terre qui n'est pas aussi dure, et l'or commence à devenir assez perméable, et c'est plus difficile à retrouver. Donc, l'origine de l'or lui-même est un élément qui n'est pas réplicable.
Réplicable, oui.
Et qu'est-ce qu'il est beau aussi,
Ouais. C'est ça
qu'est-ce
qui fait
qu'il
sa
brille.
rareté, oui.
Et donc, en fin de compte, on en discutait avant aussi, Igor, c'est que la relation de l'être humain avec l'argent est quand même un fil conducteur de la vie de chacun. L'emploi, d'où je vais payer mes factures, qu'est-ce que je projette, etc., etc. Et avant, c'était l'or. Il y avait le standard d'or. C'est Bretton Woods qui a fait en sorte qu'on a dévié dans une devise qui était des systèmes monétaires, des banques centrales à imprimer un peu un billet d'échange, mais c'était basé sur l'or. Donc omniprésent, important et fait partie de l'histoire et du futur de ce monde.
Et concrètement, l'or, comment on l'extrait? Donc toi, tu es dans ce milieu où on va chercher l'or
Oui,
directement à la source, c'est bien ça?
absolument. Ouais.
Ouais.
Donc, je vais donner l'exemple de ma société MFD, Mine Finance Development. Ce qu'on fait, c'est on fait des investissements passif, presque du private equity, mais aussi des investissements actifs où nos 50 géophysiciens et géologues font en sorte qu'on va dans l'opérationnel lui-même. Donc, prenons le cas, par exemple, de l'or au Maroc. Premièrement, il y a les herders, les bergers. Et donc, ce qui se passe dans la terre, c'est que quand l'or, il remonte à la surface, ça crée une anomalie qui est géologique. C'est-à-dire que la géologie a été perturbée. Et cette perturbation est déjà une indication qu'il y a quelque chose sous la Terre. Donc après, avec mes équipes, ce qu'on fait, c'est que, bien sûr, il y a l'or artisanal, où à la surface, ils vont... Ils sortent l'or, quelques grammes. Et en plus, moi, ce matin, j'ai dit 1 gramme d'or, c'est 100 dollars. C'est incroyable. Ça peut sembler que, ben, bref, encore de l'espérance que ça aille et ajuster à l'inflation beaucoup plus haut. Mais après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des forages, du drilling. Parce que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit pouvoir visualiser d'une manière cartésienne la veine sous le terrain, quelles sont les réserves, quelle teneur d'or et quelle capacité à faire une exploitation en expansion pour pouvoir faire la décision même d'aller trouver cet or et le commercialiser. Donc il y a déjà tout ça à faire. Mais comme on dit souvent, Dieu a créé l'or, mais le diable l'a caché. Donc, c'est vrai que trouver des veines à la surface qui sont vraiment concises et claires, c'est difficile, mais pas impossible. Donc, après, ce qui se passe, c'est que c'est clair que si on est à la surface On commence à prendre des excavateurs, on fait la pulvérisation du tonnage, et on sort un genre de concentré. Ça devient un dory bar, après qu'il faut aller amener chez un raffineur, et donc après l'or qui finit chez le consommateur final. Et après, il y a des, si on arrive à trouver avec des intercepts plus bas, on voit qu'il y a beaucoup d'or et une veine très claire qui dure longtemps. Donc après, on fait carrément, on mine sous. Et ça, c'est quand même une création d'une mine, un plan de mine. Et donc, il y a quand même, pour faire des choses d'une manière institutionnelle, pour que ça aille de la valeur aussi pour mes associés, mes actionnaires, il faut qu'on fasse quand même preuve d'intelligence institutionnelle. Mais je insiste là-dessus, que beaucoup des grosses mines qui ont été mises en production sont venues par des gens qui ont presque été métaphysiques dans la déduction de où était la mine. Et ça peut choquer beaucoup de gens parce qu'ils disent « Ah ouais, je suis cartésien, c'est de l'ingénierie. » Non, pas que ça. On peut perdre beaucoup d'argent. Donc, il y a aussi où il faut être en acceptation d'écouter la Terre. Écouter l'anomalie elle-même. Et c'est là que, moi, je pense qu'on peut trouver une bonne mine sans rentrer dans l'intuitif, mais pour trouver une grande mine, comme une grande pièce de théâtre, comme une grande pièce de musique, il faut qu'on soit dans l'acceptation de l'intuition.
Et puis, c'est un produit naturel, donc il faut écouter la nature. On parle souvent de nature et de mine. À mon avis, c'est des questions très liées. Au final, on extrait des choses de la nature. Comment est-ce qu'on fait pour la préserver, la nature?
Donc après, bien sûr que les choses nocives et toxiques ne sont plus tellement dans l'équation quand on parle de quelque chose d'institutionnel. Quand on va pour une licence de mine, il y a déjà la licence d'exploration. Donc l'exploration, ça vous donne du temps pour voir si vous arrivez à trouver une réserve suffisante pour après demander le permis d'exploitation. Dans ce permis d'exploitation, les départements de mines de chaque pays sont très soucieux que la nature ne soit pas dérangée, qu'il n'y a rien de toxique, etc. Donc il y a un ESG, Sustainability Report, qui doit être livré. Il y a beaucoup de power qui doit être généré pour le fonctionnement de la mine. Donc, c'est clair que là, on doit aussi donner un plan. Après, comment est-ce qu'une fois qu'on a fait le mining, quel est le plan après pour réhabiliter la terre? Comment intégrer les communautés? Et moi, je pense honnêtement, et je peux être un peu, comment dirais-je, frustré par le fait que le mining en tant que tel a été vilifié d'une manière, c'est nocif, c'est toxique, qu'est-ce que c'est que ça, et spécialement les nouvelles générations, ben, si on le fait d'une manière consciente et green, n'oubliez pas que le cuivre qui est dans votre téléphone, le manganèse qui est dans vos bureaux, vos constructions, vos voitures, le silice, etc., etc., fait partie de votre vie. Vous n'avez pas de téléphone sans mining. Donc, je sais que c'est difficile de se séparer de son téléphone, c'est devenu le troisième bras, mais sans du mining conscious, ça va pas être possible de continuer à donner un mode de vie acceptable à des millions de personnes.
Mm-hmm. Et si on revient à l'or, ta spécialité quand même.
Oui.
Qu'est-ce que l'or a que le platine ou que, je sais pas, l'argent n'ont pas?
Ça, ça rentre un peu de nouveau dans la métaphysique. C'est clair que l'or, déjà par son regard esthétique, je peux regarder le platine ou un acier, ok, diamant, ben voilà, c'est autre chose. Mais l'or aussi a une propriété qui est qu'elle est malléable. Donc, on peut l'intégrer dans beaucoup de choses. Il y a aussi l'élément de l'origine de l'or. Il y a aussi le fait que, comme je disais avant, il y a eu des royaumes par le passé. Alexandre le Grand, il y a peu de personnes qui le savent, a financé sa conquête mondiale d'une mine d'or en Grèce antique. Donc, ça donne quelque chose que les autres éléments n'ont pas. Et de nouveau, chacun a son rapport à l'or. Moi, je trouve aussi, je suis un peu, des fois, on a un diamant, une rubis, ou on a une autre matière. On a personnellement aussi un rapport avec ça. Il y a de l'énergie qui se mélange entre les deux. C'est une énergie qui vous va bien ou pas. Mais j'ai trouvé que l'or est un baromètre neutre du destin, quitte à pas perdre sa tête et aller dans le gold fever. Mais je pense que l'or a quelque chose d'exceptionnel et à chacun de dire pourquoi il trouve l'or différent des autres éléments.
Mmh. Est-ce que c'est ça qui le valorise, l'or? Le prix de l'or, comment on le trouve?
Alors, le prix même de l'or, comme beaucoup de choses, bien sûr, il y a supply and demand. Il y a l'offre et la demande, d'accord? Et il y a aussi le fait est que quand il y a de l'instabilité dans le monde et quand la population d'une nation ne font pas confiance dans le système, et regardons au jour d'aujourd'hui, qu'après le Covid, après des autres guerres qui ont lieu, qui continuent, c'est vrai qu'on n'est plus réfléchi dans notre relation avec le pouvoir et les décisionnaires qui sont. Donc tout ça fait une instabilité, un souci où on dit il y a eu par le passé des devises qui ont en hyperinflation. 100 000% de pertes, voilà, et etc., etc. Donc, on revient aussi à cette base sur l'or.
Mmh. Et je crois mercantilisme, que... on revient vers cette idée que l'or est une devise, en fait. Ouais.
Absolument. Et avant Bretton Woods, c'était le gold standard qui était là. Donc, je trouve que aussi l'or, le secteur minier a été déprimé pendant 10 à 15 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que, en tant que point de vue finance et trading, c'est que c'est vrai que ça prend du temps pour que le consommateur généraliste, et ça, c'est pour ça que je t'applaudis, et Swissquote, que, en fin de compte, ils sont en train de faire comprendre les nuances de la finance qu'ils étaient les élites qu'ils le savaient avant. C'est que l'information, quand eux, ils l'ont normalement, c'est trop tard. Et là, on est un peu dans la proactivité. Donc, je crois que ça a aussi fait en sorte que l'or a beaucoup pris de valeur aussi. Ouais.
Oui, puis aujourd'hui, il y a plein de fonds liés à l'or. C'est pas que physique, en fait. L'or, maintenant, c'est le physique qui se transforme en un fonds d'investissement, en plein de choses, d'ailleurs, ouais. Que vous pouvez retrouver chez Swissquote.
Ouais.
Mais je voulais savoir, en fait, comment on passe de... l'or physique brut à quelque chose de digital, une valorisation digitale.
Ouais. Donc, en fin de compte, moi, je regarde la philosophie que j'ai créée, qui est un pont entre le corporate world et le monde métaphysique. Et là, ce que moi je pense dans la philosophie elle-même, qui est un fil conducteur de ma vie et de beaucoup d'entrepreneurs et de leaders inspirés, pas que je dis que je suis un leader inspiré. Mais on s'aligne à une intuition qui est supérieure et ça manifeste une réalité plus claire. Donc, c'est en résumé. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est clair que dans l'or lui-même et dans, on prend la fondation qui est l'or. Si on parle sur les ETF, si on parle de comment après maquiller entre guillemets. Les ETF aujourd'hui sont basés sur de l'or. Normalement, l'émetteur de l'ETF, il a de l'or physique. Il faut bien être sûr qu'il a suffisamment, qu'il ne s'est pas sur-leverager pour pas avoir un problème dans le futur. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut, par exemple, ils sont devenus beaucoup mieux à filtrer les bons et les mauvais. Et après, ce qui se passe, c'est que cet or, avant, l'or coûte pour que tu aies l'or physique. Il y a un coût. L'ETF lui-même permet d'avoir des petites, des morceaux de cette base d'or qu'a l'émetteur de ETF et crée une liquidité. Donc, quelque part, pour un gestionnaire, pour quelqu'un qui a un portefeuille qui va à l'exposition à l'or, ETF, est quelque chose de super. Je pense que c'est un mouvement pour développer un peu la finance, en sachant qu'il y a des coûts. Donc, quelque part, si vous voulez avoir quelque chose de plus long terme, c'est peut-être l'or physique. Mais si pour le trading, etc., etc., je parle pas de très, très, très long terme, les ETF sont une solution qui sont remarquables. Moi, personnellement, avec mes équipes, on a des mines d'or où je suis en train de presque réfléchir à faire un token sur cette mine d'or. Ce sera un hybride où je suis en train de réfléchir à peut-être faire un blockchain sur un token sur ma mine qui pourrait donner sur la réserve actuelle un comme l'ETF, mais aussi une croissance sur le développement de la mine. Donc, on est toujours en train de voir comment allier la finance avec la base, mais il faut la base.
Mmh. Et bien sûr, je rappelle que rien de tout ce que l'on dit n'est un conseil en investissement, mais on parle de ton expérience, en fait, et de la manière dont tu vois l'or, vu que c'est rare de rencontrer des personnes qui partent de la mine d'or avec la pelle. Je ne sais pas si tu le fais encore.
Oui,
non, tu prends la pelle
et
tu vas. Oui. Tu m'envoies une photo, tu étais au Maroc, c'était vraiment. Je voyais,
dans la mine.
Dans la mine. Ouais, c'est vraiment exactement les mains dans le cambouis. Il faut
absolument passer du temps sur la concession. Parce que si la concession et la mine et l'opérationnel et les gens ne sont pas motivés, ça n'aura pas de mine.
Mm-hmm. Mais surtout, toi, tu es un acteur qui voit de A à Z, en fait, le transfert de l'or au digital, comme on parlait. Et ça, c'est rare de rencontrer quelqu'un comme ça. Je voulais savoir, c'est qu'au Maroc ou est-ce que vous êtes avec vos mines?
Donc, sur le Maroc, on a une mine dans le Sahara. Sahara était, bien sûr, très politiquement perturbé à cause de entre le Maroc et l'Algérie, tout ça, etc., etc. Mais ça s'est beaucoup calmé. Donc, on est à Guilmim, au sud, dans le Sahara, dans le port de Sahara, et aussi à Ouarzazate, qui est à peu près 3-4 heures d'aller Marrakech, l'Atlas, pour arriver. Et là, on a du manganèse et du cuivre. Il y a du cuivre. Je trouve que c'est un pays fascinant que je ne connaissais pas très bien. Et ils font tout en sorte de vraiment vous aider. Et la législation minière va. Et ça continue. Et maintenant, ça va subsaharien aussi. On regarde beaucoup le Maroc, comment ils ont fait avec la législation. Donc, on a dans notre portefeuille global de MFD, Mine Finance Development, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diversifié quand même nos risques. On est au Brésil, au Chili, etc., aux États-Unis. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un pôle de centre de gravité aussi au Maroc.
Écoute, moi qui suis dans la jeune génération d'investisseurs, enfin, je fais partie, j'ai 28 ans, nous, on voit les jeunes, on voit le Bitcoin qui arrive, on voit plein de monnaies digitales. Toi, tu vois quoi entre Bitcoin, or, est-ce que c'est comparable?
Ben, en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui portent donner leur opinion Bitcoin or. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai étalé il y a quelques minutes une symbiose des deux. C'est-à-dire que l'or lui-même, en blockchain, tokenisé sur un exchange, qui donne accès pas seulement comme un ETF à l'exposition à l'or, mais aussi à la croissance d'une mine et d'un pays et d'un groupe de management. Et tout ça tokenisé. Donc, je crois que c'est pas des choses qui sont mutuellement exclusives. Et je crois que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui connaissent les mines, il y a des gens qui connaissent la finance. Ceux qui connaissent pas, qui connaissent la finance et les mines ensemble, c'est quand même une denrée qui est un peu plus rare. Donc, oui, il y a déjà des ETF, il y a aussi des tokenisations d'or direct sur le spot or. On va dans ce trend-là et je ne pense pas qu'ils sont mutuellement exclusifs.
Est-ce que tu penses que c'est le plus grand trend qu'il y a dans l'or en ce moment, cette manière de tokeniser ou...
Peut-être pas le plus grand trend parce que Bitcoin a ses avantages, ses désavantages. Je pense que c'est un bon rapprochement. Enfin, qu'ils disent que dans la vie, il faut mieux s'embrasser avant de se marier. Donc, c'est déjà le premier bisou. Donc, que ce soit sucré, je suis sûr qu'il y aura un beau futur dans le futur.
Mm-hmm. Et peut-être tu as une anecdote, j'en profite vu que tu as autant d'expérience avec les mines, tu as une anecdote qui s'est passée dans une mine ou quelque chose de sympa à raconter?
Oui, en fin de compte, ce métier qui est, comme je dis, il a eu une mauvaise publicité, est un métier exceptionnel. C'est un métier où on voyage dans les cultures différentes. On est dans des topographies vierges. On est dans des endroits avec des défis. C'est comme à l'époque, les aventuriers, et en fin de compte, le premier exchange de stock market du monde, c'était un prospecteur d'or qui est allé voir un richissime businessman, mécène de Vancouver, et lui a dit, écoute, je vais dans le Yukon et je vais aller chercher de l'or. Est-ce que tu es dans le coup, non? Et le gars, il a dit, je sais pas, voilà. Il a dit, écoute, si tu me payes le voyage et l'expédition, je te donnerai un pourcentage. De là, donc il a dit oui, et ça s'appelle des Junior Canadian Pools. C'est-à-dire que c'était des pools d'argent dédiés à un objectif minier. Et de là sont venus le Stock Exchange, le SPAC, Special Acquisition Companies. Et donc, en fin de compte, je pourrais dire que cette anecdote est de ce prospector qui a fait en sorte que ces bourses mondiaux, quelque part, ont existé.
Et c'est quoi la première fois que tu as eu accès à de l'or, que tu as vu de l'or ou...
Écoute, je suis d'origine pakistanaise et je suis de nationalité suisse. Ma mère, quand on était petit, c'est vrai que dans les mariages, c'est vrai que c'est pas une dot, mais il y avait beaucoup d'or qui était donné à la mariée, qui faisait en sorte que quelque part il y avait une petite sécurité financière, et ça faisait partie de la psychologie aussi de l'époque. Et donc je me souviens à Genève, étant dans la maison, voyant la bijouterie de ma mère traditionnelle, le regardant avec des yeux d'enfant, et ces yeux d'enfant, en fin de compte, m'ont jamais quitté et j'espère qu'elles ne me quitteront jamais.
Et c'est super intéressant ce que tu dis, et peut-être j'avais une question un peu tech, tu vois, je sais que tu es aussi dans la technologie, oui. Des choses comme ça, votre entreprise elle est aussi là-dedans. Est-ce que tu vois, t'imagines une place de l'intelligence artificielle par exemple ou d'autres technologies dans l'or?
On a intégré aussi de l'intelligence artificielle un peu dans nos mines. Par exemple, je te donne l'exemple. On m'a donné une météorite au Maroc récemment, du belt d'astéroïdes. Et on a envoyé la photo à notre instrument de AI qui a dit exactement qu'est-ce qu'il y avait en pourcentage d'éléments dans ce météorite. Et ça prenait des semaines avant. Aussi, dans notre mine, on lui donne des données et c'est clair qu'il est très, 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 très spécifique où on doit mettre les machines, quelle est la teneur, etc., etc. Donc, c'est un grand bond. Donc, oui, je crois qu'une intégration intelligente avec un élément humain fait en sorte qu'on pourrait faire plus d'éléments qui sont importants pour la société. Et je pense que l'utilisation intelligente du AI, et je crois que c'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré et qui va servir l'humanité.
Mmh. Et si on devait résumer en une phrase, où va l'industrie de l'or, ce serait quoi pour toi?
Moi, je pense que l'industrie d'or, c'est comme avoir... Je suis un karatéka. Quand on est en mouvement, on perd jamais son centre. Le centre qui est le hara, c'est une centre de gravité. Et après, on fait nos mouvements et le centre de gravité fait une propulsion pour pouvoir exécuter. Je crois que dans l'économie, l'or est ce centre de gravité. Et cet or sera avec nous. Et quitte à l'incertitude qu'il y a dans le monde aujourd'hui, je pense que ce centre de gravité de l'or restera. Donc je pense que où les choses vont aller mieux parce qu'on a un centre.
Et si on devait retenir Ayoub en une phrase, qu'est-ce que tu nous dirais pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent?
Moi, je pense que l'importance pour moi, c'est vraiment de revenir à notre propre essence. C'est-à-dire qu'on est un peu tributaire de notre passé, tributaire de notre futur, qui crée des anxiétés, qui crée des incertitudes. Donc si on donne l'analogie de la mine pour aller le sol, la mer protectrice, pour arriver à un centre qui est le vrai nous. Donc être soi-même dans ce monde est la chose la plus difficile qu'il y a, mais le plus grand trésor qu'on peut avoir.
Au final, ce qui est important, c'est l'éducation aussi.
Ouais.
On parle d'un thème, on parle d'investissement, de finances, mais c'est surtout, on essaye d'éduquer les gens, de leur donner les clés.
Absolument.
Voilà, et c'est comme pour tout, pas que pour la finance.
Voilà.
Ce qu'on aime bien faire dans le podcast, en fin d'émission, on aime bien poser des questions rapides comme ça, et tu nous réponds avec un mot.
Ok, d'accord.
Tu t'es d'accord de faire
oui,
ça?
Oui, bien sûr.
Si tu devais choisir entre l'or ou l'argent?
Alors,
quand forcément, je commence avec ça. Les mines ou les salles des marchés?
Je peux prendre Joker là-dessus.
Oui, ok. Casque ou cravate?
Cravate, je prendrais cravate quand même.
C'est quand même plus joli.
Lingot
ou bijoux?
Lingot.
Ok. Brut ou raffiné?
Brut.
ETF ou coffre-fort?
Je prendrais le coffre-fort.
Ouais, on en a parlé avant. Ouais. Discipline ou disruption?
Discipline.
Et pour finir, méditation ou spéculation?
Je te laisserai répondre toi-même. Mais je pense que c'est la méditation. Ouais. C'est ça. Ouais.
T'es une personnalité complète en tout
cas.
C'est.
Merci. C'était un vrai plaisir.
Merci beaucoup, en tout cas. Et je pense que nos auditeurs et auditrices ont aussi beaucoup gagné avec ton expérience et puis ton avis. Vous venez d'écouter Unlocked, présenté par SwissQuote. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner et à ne manquer aucun épisode qui sont sur Spotify, toutes les chaînes de podcast, mais aussi notre chaîne YouTube en vidéo. Et on a aussi des réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous aimez ce qu'on fait, à commenter, peut-être nous donner d'autres questions qu'on pourrait poser à nos invités. Merci beaucoup. Encore une fois, merci Ayoub. C'était un plaisir. Merci.
Le contenu de cette vidéo, y compris les commentaires, données et observations sur le marché, n'est pas le produit d'un service de recherche de SwissQuote ou de ses filiales. Ce document a pour but de mettre en avant l'action du marché et ne constitue pas un conseil d'investissement juridique ou fiscal. SwissQuote ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la qualité, l'exhaustivité, l'exactitude ou la non-violation de ce contenu. Les points de vue exprimés sont ceux du consultant et ne sont fournis qu'à des fins éducatives. Toute information fournie concernant un produit ou un marché tiré ne doit pas être interprétée comme une recommandation de stratégie d'investissement ou de transaction. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. SwissQuote, son personnel et ses représentants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte découlant directement ou indirectement de décisions prises sur la base du contenu de la vidéo. L'utilisation de marques ou de marques déposées de tiers est uniquement à titre d'information et n'implique pas l'approbation de SwissQuote ni que le titulaire de la marque déposée ait autorisé SwissQuote à promouvoir ses produits ou services. SwissQuote est la marque de commercialisation des activités de SwissQuote Bank SA, Suisse, réglementée par la FINMA, SwissQuote Capital Markets Limited, réglementée par la CISEC, Chypre, SwissQuote Bank Europe SA, Luxembourg, réglementée par la CSSF. SwissQuote Bank SA, Royaume-Uni, réglementée par la FCA, SwissQuote Financial Services, Malte. L'UTD réglementée par la Malta Financial Services Authority, SwissQuote MELUTD, IAU réglementée par la Dubai Financial Services Authority, SwissQuote PTLIDD, Singapore réglementée par la Monetary Authority of Singapore, SwissQuote Asia Limited, Hong Kong autorisée par la Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC. Les produits et services de SwissQuote sont réservés aux personnes autorisées à les recevoir en vertu de la législation locale. Tous les investissements comportent un certain degré de risque. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients particuliers subissent des pertes de capitaux lors de la négociation de CFD. vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les actifs numériques ne sont pas réglementés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement spéculatif très volatile, les actifs numériques ne conviennent pas aux investisseurs n'ayant pas une tolérance au risque élevé. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant toute transaction.